Métaphysique, Saint-Jodard, 84-85, le 7 juin 1985.
Je vous disais hier en terminant qu'il serait extrêmement intéressant de voir comment la philosophie scolastique a oublié cette grande découverte de l'être en acte. Petit signe, regardez le petit manuel intelligent du père Gardeil sur la philosophie de saint Thomas. Puis vous regardez ce qu'il dit sur la métaphysique. Vous regardez la table des matières. Sur ce qu'il faut faire. Et puis vous essayez de comprendre où se situe l'être en acte et l'être en puissance. Vous voyez que la grande division, c'est le point de vue de la substance et des prédicaments. C'est très curieux que dans la scolastique, et c'est toujours intéressant de voir ça, parce que quand on se dit « Ah, vous faites des études thomistes, donc c'est la scolastique. » Et alors, vous voyez ce que c'est, il faut savoir ce que c'est devenu, ce que c'est que la scolastique. Hein. Enfin, tout de suite, vous le voyez progressivement. Vous voyez que c'est la distinction des catégories qui l'ont emporté. C'est la grande distinction. Ça, c'est resté. Les catégories, c'est resté. Parce que c'est beaucoup plus proche de la logique. L'être en acte et en puissance, c'est l'au-delà de la logique. Ça, c'est bien évident. Très difficile de voir. Qu'est-ce que c'est que la distinction de l'être en acte et en puissance et en logique? Posez-vous la question. C'est toujours intéressant, parce que la logique, il faut petit à petit comprendre ce que c'est. La métaphysique, la logique, la critique. Ayez bien les trois niveaux différents de réflexion. Vous arrivez petit à petit à comprendre ce que c'est que la logique. La réflexion sur l'être de raison, donc sur l'universel. Alors là, vous voyez tout de suite les catégories. Les catégories viennent tout de suite. Mais l'être en acte et l'être en puissance, pas grand-chose en logique. Et en critique, non plus. Au fond, c'est la fine pointe de la métaphysique qui va tomber dès qu'on est au point de vue logique et dès qu'on est au point de vue critique. C'est pas étonnant. La causalité finale, j'allais dire, échappe à la critique. Elle échappe à la logique. C'est le point de vue de la causalité formelle qu'on retrouve en critique, qu'on retrouve en logique. Je dis ça à titre justement de réflexion, parce qu'il faut... Vous voyez, quand on fait cette recherche au plan philosophique, il faut essayer de comprendre ce que Heidegger a très bien saisi, il ne fait que l'affirmer, mais il a très bien saisi que c'était un sommet de la philosophie grecque. Et que ce sommet de la philosophie grecque, bon, il a été maintenu par saint Thomas. Heidegger ne le dit pas, mais il a été maintenu par saint Thomas, ça c'est vrai. Mais immédiatement après saint Thomas, avec Occam, ça disparaît. Avec Descartes, ça disparaît. Vous le retrouvez d'une certaine manière en scolastique, le dernier moment de la scolastique, qu'est Leibniz. Il ne faut jamais l'oublier. Le dernier moment de la scolastique, Leibniz. C'est là, et c'est pour ça que certains restent à Leibniz, s'appuie, s'accroche à Leibniz profondément, parce que c'est quand même encore dans la philosophie ordinaire, la philosophie occidentale, un moment important. Leibniz reprend le terme aristotélicien de entelecheia, terme que les écoles, dit-il, n'ont que trop peu expliqué. Vous voyez, c'est intéressant. Leibniz reconnaît que c'est tombé dans la scolastique, le entelecheia. qui signifie la perfection d'une réalité. Et surtout pour Lénine, sa force. La force, oui, la dunamis. On retrouve la dunamis platonicienne avec la entelekeia. C'est cette entelekeia qui définit la monade. Alors je vous cite ce texte de Leibniz. On pourrait donner le nom d'entelechie à toutes les substances simples ou monades créées, car elles ont en elles une certaine perfection. Il y a une suffisance autarkeia. Suffisance au niveau métaphysique, hein, pas suffisance morale. Une autarchie, l'autarkeia. Il y a une autarchie qui les rend source de leur action interne. Et pour ainsi dire, des automates incorporels. Mais le mot automate a perdu toute sa signification pour nous. N'est-ce pas, quand on dit automate, on voit tout de suite ce que c'est. Tandis que dans le sens de Leibniz, c'est autarkeia, l'automate. C'est celui qui agit en étant source de son activité. Voilà ce que c'est que d'être automate. C'est très loin, hein, de ce que vous appelez un automate. L'automate, auto, c'est automobile. Hein. Automate, c'est l'automobile. Il est source de son activité. Si vous lui mettez de l'essence, hein, s'il n'y en a plus... Hein. C'est le nerf de la guerre. Hein. Alors, il peut marcher s'il y en a. Mais s'il n'y en a pas, cet automate demeure immobile. Il est en panne. Et on voit très bien ce que ça veut dire. Revu et interprété par la Nice, entelekeia devient avant tout efficience. La force active qui anime la substance, la monade, et qui est un intermédiaire entre le pouvoir et l'action. C'est très curieux et c'est très intéressant. Je crois que c'est peut-être l'entelekeia qui donnerait l'intelligence de toute la philosophie leibnizienne. Faut faire attention, hein, pour nous, à l'usage interne. Si entelekeia est vraiment le sommet de la philosophie grecque, vous voyez, si entelekeia, entelekeia, ça ne vous dit rien du tout. Alors qu'il faut que, quand vous dites entelekeia, entelechie, vous comprenez tout de suite entelos dans la fin. L'ayance dans la fin, le ronronnement du chat auprès du feu, c'est vous êtes en possession de la fin, dans l'ayance de la fin, et dans l'ayance de la fin, vous êtes dans cette espèce de repos. Quand on dira que la contemplation est un repos, c'est même l'ayant. Vous êtes dans l'ayant. C'est un mot inventé par Aristote. Hein. C'est un mot qui n'existe pas chez Platon. L'entelekeia, c'est la beatitude. L'image merveilleuse de la béatitude, c'est le ronronnement du petit chat. On gratte sa tête sur en place du feu. Il est en béatitude. Il fait des petits yeux merveilleux. Et là, à ce moment-là, il vous regarde en béatitude. En état de béatitude, entelekeia. Il faut avoir une image, hein, de l'entelekeia. Alors à ce moment-là, vous comprenez mieux, vous dépassez l'image pour comprendre la réalité, mais c'est bon d'avoir ce petit symbolisme, l'entelekeia. Vous êtes dans l'ayance dans la fin, l'ayance dans la fin. C'est très curieux. C'est pas du tout le tonti eneinai, hein, les deux mots inventés par Aristote. Or, selon Heidegger, c'est le sommet de la philosophie grecque. C'est la perfection. L'état de béatitude pour l'homme. La perfection pour l'homme, c'est la béatitude. Le petit chat, c'est l'image. L'homme bienheureux. Et entelekeia. Quand le Saint-Esprit vous permet que votre âme est en réalité parfaitement épanouie en face du mystère. En face du mystère. Hein, et dans le mystère. Attiré par le mystère. Intellectuel. En repos. Vraiment en repos. C'est la béatitude. Bon, alors, c'est le sommet de la pensée grecque. C'est le sommet de la théologie de saint Amand. Que devient l'entelecheia? Que devient l'energeia? Parce que vous voyez, on a pris entelecheia, on n'a pris pas energeia. L'energeia va plus loin que l'entelecheia. L'entelecheia, c'est l'aspect subjectif de l'energeia. L'energeia, c'est l'être en acte. Ça, c'est ce que le petit chat contemple, hein, l'energeia. C'est ce qu'il contemple, c'est l'aspect objectif de l'intellectia, qui est l'aspect subjectif. L'aspect subjectif est demeuré dans la philosophie. L'aspect objectif est tombé. En saint Thomas, l'aspect objectif demeure. Alors, dans saint Thomas, toute la théologie de l'acte. Pas la théologie de l'essai, mais la théologie de l'acte. L'essai, c'est bien l'acte de ce qui existe. C'est la théologie du bien, ce que nous appelons du bien. Alors on peut dire théologie de l'essai, théologie du bien. C'est l'énergie. Et puis alors ensuite, dans la scolastique décadente, ça disparaît. Et puis vous avez Leibniz. Et comment l'énergie, l'antéléchie demeure dans Leibniz, la vie. Extrêmement significatif, ça, de voir que le point de vue de la fin est gardé dans la lice par le point de vue de l'efficience. Et je crois que c'est ça qui nous fait comprendre toute la philosophie de la lice. Donc, revue interprétée par la lice, l'entelecheia devient avant tout efficience, la force active qui anime la substance, la monade, et qui est un intermédiaire entre le pouvoir et l'action, qui contient un effort, grâce auquel elle passe d'elle-même à l'action, si rien n'empêche. Leibniz tient à bien spécifier que la notion d'entéléchie, qui n'est pas entièrement à mépriser, ça c'est Leibniz qui dit ça, hein, ce n'est pas entièrement à mépriser. Ne méprisez pas tout dans l'entelecheia. Il y a quelque chose à garder. Qu'est-ce qui est à garder? C'est ce que Leibniz lui-même a compris. C'est la seule chose à garder. Donc la notion d'entelechie porte avec elle non seulement une simple faculté active, mais aussi ce qu'on peut appeler force, effort, conatus, donc énergie, dont l'action même doit suivre, si rien ne l'empêche. Alors que la puissance active des scolastiques, ou facultés, a cependant besoin de recevoir pour passer à l'acte l'excitation d'autre chose. La puissance active doit être finalisée pour passer à l'acte. Ce qui est merveilleux dans l'entelecheia, tel que la conçoit Leibniz, c'est qu'elle n'a pas besoin d'autre chose. Elle s'actue elle-même. C'est une automobile qui a en elle-même sa propre essence. Alors elle s'actue par elle-même. Elle n'a pas besoin d'autre chose pour pouvoir se mouvoir, pour pouvoir agir. Aussi précise-t-il que les formes qu'Aristote appelle entéléchie première, les substances intellectuelles, lui-même les appelle peut-être plus intelligiblement forces primitives qui ne contiennent pas seulement l'acte ou le complément de la possibilité, mais encore une activité originale. Il souligne aussi que si la puissance est prise pour la source de l'action, elle dit quelque chose de plus qu'une aptitude ou facilité, car elle renferme encore la tendance. C'est pourquoi, dans ce sens, j'ai coutume de lui affecter le terme d'antéléchie, c'est Leibniz qui dit ça, hein, qui est ou primitive, ou répond à l'âme prise pour quelque chose d'abstrait, ou dérivative, telle qu'on conçoit dans le conatus et dans la vigueur et l'impétuosité. C'est très curieux. Tout est pris du côté subjectif. Et c'est au fond cet appétit intérieur qui me porte vers quelque chose, cette espèce de spontanéité métaphysique. Je crois que c'est ça que ça traduirait assez bien. Le métapsychologique. Le métapsychologique, c'est cette spontanéité. Cette spontanéité métaphysique, cette impétuosité. C'est ça le point de vue de l'entelekeia. Je crois que c'était très significatif. Pour moi, c'est extrêmement significatif de voir, parce que c'est toujours par les sommets qu'on juge un système, hein, c'est pas par le bas, c'est par le sommet. Alors, que devient l'entelekeia d'Aristote dans Leibniz? Ce serait une très belle thèse à faire. Hein. Que devient l'entelekeia d'Aristote dans Leibniz? Et alors là, vous comprendriez, vous voyez, le modus, la manière de recevoir, le modus recipiendi de la Leibniz. Il reçoit l'entelekeia d'Aristote de cette manière. Notons encore ce passage très significatif où l'on saisit bien la transformation que Leibniz fait subir à la doctrine d'Aristote. Je peux le faire, c'est loyal de le faire, puisqu'il emploie lui-même le terme d'Aristote. Il considère que ce n'est pas méprisable, ce terme. Oui. Il y a quelque chose qui demeure de la philosophie d'Aristote en Leibniz, c'est l'entelekeia. Ça, il faut le comprendre. C'est le sommet de la philosophie de Leibniz qui rejoint le sommet de la philosophie d'Aristote. Il faut voir ce que signifient ces deux sommets. Alors voici ce qu'il nous dit. Je vous lis encore ce passage. Si la puissance répond au latin potentia. Vous voyez, on est dans la scolastique. Hein. Si je ne connais pas la scolastique, je ne peux pas comprendre la Leibniz. Impossible. Tandis que si je connais la scolastique, je vois bien ce qu'il veut dire. Si la puissance répond au latin potentia, elle est opposée à l'acte. Et le passage de la puissance à l'acte est le changement. C'est ce qu'Aristote entend par le mot de mouvement. C'est Leibniz qui parle. Hein. Quand il dit que c'est l'acte, ou peut-être l'actuation, de ce qui est en puissance. On peut donc dire que la puissance en général est la possibilité du changement. Or, le changement ou l'acte de cette possibilité étant action dans un sujet et passion dans un autre, il y aura deux puissances, l'une passive, l'autre active. L'active pourra être appelée faculté et peut-être que la passive pourra être appelée capacité ou réceptivité. Il est vrai que la puissance active est prise quelquefois dans un sens plus parfait, lorsque, outre la simple faculté, il y a de la tendance. Et c'est ainsi que je la prends dans mes considérations dynamiques. On pourrait lui affecter particulièrement le mot de force, et la force serait entéléchie ou effort, car l'entéléchie, quoique Aristote l'apprennent si généralement qu'elles comprennent encore toute action ou tout effort, me paraît plutôt convenir aux forces agissantes primitives et celui d'effort ou dérivative. Il y a même une espèce de puissance passive plus particulière et plus chargée de réalité, c'est celle qui est dans la matière, où il n'y a pas seulement la mobilité qui est la capacité ou réceptivité de mouvement, mais encore la résistance, qui comprend l'impénétrabilité et l'inertie. Les entéléchies, c'est-à-dire les tendances primitives ou substantielles, lorsqu'elles sont accompagnées de perceptions, sont les âmes. Enfin, c'est le dernier mot. Qu'est-ce que c'est que l'âme? C'est l'entéléchie. Aristote lui dira que l'âme, c'est l'acte du corps. Vous voyez, alors c'est une bouillabaisse complète hein, d'Aristote. Ça, c'est la, on peut dire, c'est saisi uniquement du côté de l'exercice. C'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce qui est saisi dans l'entéléchie? c'est l'efficience, c'est l'exercice. Ce n'est plus du tout vu du côté de l'être. C'est vu du côté de l'effet, de l'action, de la réalisation, donc de l'efficience. Je crois que c'est pas la peine. C'est intéressant de voir, vous voyez, comment ce qui est le sommet de la pensée d'Aristote se retrouve à travers les théologiens, se retrouve au dernier terme dans la scolastique, de façon ultime. Qu'est-ce que c'est l'antéléchénaïs, c'est ça qui est intéressant. Alors, il faudrait comprendre comment il y a eu un effort de redécouverte de l'acte dans la pensée de Lavelle. Quand le livre de l'acte chez Lavelle est paru, on a dit, voilà, l'aristotélisme qui revient. C'est un gros livre, le livre de Lavelle de l'acte. Ceux qui s'intéressent à l'histoire de la pensée, c'est un moment intéressant. C'est quelque chose qui... Le courage d'écrire un gros bouquin de l'acte. Mais quand vous faites le parallélisme entre le livre Theta d'Aristote et le livre de l'acte de Lavelle, vous voyez toute la différence qui existe entre les deux. Le livre de l'acte de Lavelle n'est pas du tout la reprise de la métaphysique de l'acte. C'est vu à travers la conscience de l'être. Lavelle, c'est une métaphysique de la conscience. Je prends Lavelle parce que c'est sûrement parmi les modernes. Lavelle, il est mort il n'y a pas si longtemps, enfin, ça reste un moderne. Parmi les modernes, c'est sûrement un de ceux qui ont voulu redécouvrir une métaphysique. La conscience de l'être. Quand j'étais jeune étudiant, on était tous plongés dans Lavelle. La conscience de la totalité de l'être, la conscience de l'acte. Il y avait Bergson et Lavelle. Mais c'était quand même des gens qui avaient un certain souci d'une certaine métaphysique. Bergson, c'était la durée, et Lavelle, c'était la conscience. Alors, c'est un livre, quand vous êtes fatigué, que vous pouvez lire assez facilement, le livre de Lavelle. Ça se lit facilement, hein, la conscience de l'être. C'est pas la métaphysique. Hein. C'est par la conscience vouloir redécouvrir la métaphysique. Alors, c'est intéressant de voir comment on peut faire un effort d'introspection métaphysique. Pouvez-vous avoir la conscience de l'être? C'est une question qu'il faut se poser. Pouvez-vous avoir la conscience de l'être? Pouvez-vous avoir une phénoménologie de l'être? Ou est-ce que c'est impossible? Est-ce que l'être, par définition, est au-delà de la conscience et au-delà de la phénoménologie? Ça, c'est une question très importante. Et alors, l'être en acte. Est-ce que l'être en acte échappe à toute conscience psychologique? Vous voyez, ce sont des questions importantes parce que c'est peut-être là où je saisis la différence entre une pensée réflexive, qui est une pensée de conscience, et une pensée proprement métaphysique. Le jugement d'existence qui me fait découvrir ce qui est, me met au-delà de la conscience et me fait découvrir l'autre. Tant que je demeure dans la conscience, je reste dans l'ordre de l'intentionnalité. Et l'intentionnalité me permet-elle de saisir l'acte? Oui, je pose ces questions, vous vous les posez. Si vous ne les posez pas, vous n'arriverez pas à découvrir. Alors, est-ce que la critique peut saisir l'acte? Ou seule la métaphysique saisit l'acte? Toujours ces mêmes questions. Est-ce que la critique peut saisir le jugement d'existence? Est-ce que la critique peut saisir l'acte? Ou est-ce que quand je suis dans la recherche de la causalité finale, est-ce que je ne suis pas toujours au-delà de la critique? C'est toujours important de voir les moments où la métaphysique fonde la critique et dépasse la critique. saisir les limites de la critique. La critique, c'est le conditionnement de ma vie intellectuelle. La critique ne dit rien sur ce que mon intelligence touche dans ce qu'elle a d'ultime, sa fin. Alors c'est ça, ces questions qu'il faut se poser. Et c'est en ce sens-là que quelqu'un comme Lavelle est intéressant, parce qu'il me montre dans quelle mesure je peux avoir conscience de l'acte. Vous avez conscience de l'entelekeia, le petit chat qui ronronne auprès du feu, il a conscience de ronronner. Si ce chat, c'est moi. Il a conscience de ronronner. Il a conscience d'être dans un état de perfection, dans un état de repos, dans un état de contemplation. La conscience de la contemplation n'est pas la contemplation. Tout est là. La conscience de la contemplation n'est pas la contemplation. La conscience de l'entelekeia n'est pas l'entelekeia. La critique n'est pas la métaphysique. Faites les parallélismes. Alors, une fois que vous avez bien saisi ces parallélismes-là, vous échappez à cette espèce d'aspect absolu de la critique. La critique veut toujours être absolue. Elle veut toujours être première. Et on comprend très bien. Si la critique est première, l'anthropologie la plus profonde, qui est celle de notre intelligence, est au-delà de la métaphysique. C'est une manière très subtile, vous voyez, de faire le primat de l'anthropologie. C'est de mettre la critique avant la métaphysique. Mais à ce moment-là, vous ne retrouverez jamais la métaphysique. Il faut accepter qu'il y a quelque chose dans mon intelligence qui est plus vital que la critique. C'est mon intelligence dans sa finalité. Donc, comprenez cela, c'est intéressant à saisir. Alors, il faudrait regarder comment, dans l'existentialisme, il y a eu un effort de retrouver le point de vue de l'essai. Tout le monde est tombé dans le panneau, et on a dit Saint Thomas est un existentialiste. Le livre de Maritain sur le point de vue de l'essai et de l'essence, pour montrer que la philosophie de Saint Thomas est du côté de l'existentialisme, alors qu'on en a fait un essentialisme, et derrière cette critique, Maritain regarde le père Garrigou Lagrange. Alors c'est intéressant, à l'intérieur du thomisme, de voir ce désir de retrouver l'essai, la métaphysique, l'essai. Alors on a gonflé l'essai le plus qu'on peut pour dire que Saint Thomas est un existentialiste. Vous voyez, Saint Thomas n'est ni essentialiste, ni existentialiste, c'est l'être, ce qui est. Très important de saisir ça. Donc, il y a toute une topique de l'être en acte qui est intéressant à faire. Je ne la fais pas avec vous, c'est trop long. Je vais simplement montrer quelques points intéressants et de montrer comment on essaie de récupérer l'acte par l'efficience et par la conscience. Je crois que c'est les deux manières de récupérer l'acte. Par le point de vue de l'efficience, Leibniz, par le point de vue de la conscience, Lavelle. Le traité de l'acte. Alors, et on peut dire avec Lavelle, si vous voulez, toute la phénoménologie qui essaie de retrouver le point de vue de l'acte. Comment pouvons-nous reprendre, redécouvrir l'être en acte? Alors, premièrement, toujours, c'est la première chose qu'on doit faire, et c'est normal de le faire, hein, surtout dans notre monde d'aujourd'hui, l'analyse du langage. L'analyse du langage est pour nous un signe, pas plus. Un signe qui nous alerte, signal d'alarme. Le langage n'est pas au niveau métaphysique. Le langage n'est pas au niveau critique. Le langage n'est pas au niveau logique. Heureusement. Nous avons un langage qui est plus profond que la logique. Nous avons un langage qui est plus profond que la critique. Nous avons un langage qui est moins profond que la métaphysique. Alors ça, c'est intéressant de voir les profondeurs. Mais c'est vrai que le langage est plus profond que la logique, parce qu'il est plus naturel. Vous n'avez pas besoin d'être un logicien pour parler. Vous n'avez pas besoin de la critique pour parler. C'est plus naturel. Le logos est plus naturel que la critique. Le langage est plus naturel que la critique. Il est plus naturel que le point de vue de la logique. Et le langage est moins naturel que la métaphysique. Hein. C'est curieux la situation du langage à ce point de vue-là. Il est entre les deux. C'est pour ça que le langage peut être un signe qui me conduit à la métaphysique. Alors ça serait peut-être intéressant à s'arrêter un petit instant là-dessus. Parce qu'au fond, on est tellement porté sur le langage aujourd'hui, avec la philosophie analytique, que la philosophie analytique n'est pas le langage hein, tel que je le prends ici. C'est autre chose. Mais c'est quand même intéressant de voir toujours hein, ce qui est là, du point de vue de maître, du point de vue de la philosophie première. Le point de vue du langage. Quand j'ai dit ce qui est le point de vue de la philosophie de maître, il était toute une distance entre les deux. Parce que la philosophie première, elle est l'œuvre de mon intelligence. Donc, c'est la pensée. Penser l'être. Ça, c'est la philosophie première. Penser. C'est la philosophie première. C'est tout l'effort de la philosophie première d'essayer de penser l'être. Mais ce qui est n'est pas ce qui est pensé. Bon, ça, vous pouvez le comprendre assez facilement. Ce qui est n'est pas ce qui est pensé. Ce qui est premier par rapport à ce qui est pensé. Je pense ce qui est. Je pense l'être. Le langage exprime ma pensée. Le logos qui exprime ma pensée. C'est ça le propre du langage. La logique est plus loin de ce qui est et plus loin de la métaphysique que le langage. D'une certaine manière. Pourquoi ? Parce que la logique, c'est la réflexion sur l'universel. Et c'est les termes logiques sont toujours proches de l'universel. Or, l'universel, c'est le fruit, non pas de ma pensée, mais c'est le fruit de conditionnement. De l'intelligence. C'est parce que l'intelligence raisonne. C'est parce que l'intelligence est abstractive qu'il y a la logique. C'est à cause de l'abstraction qu'il y a la logique. Donc la logique est toujours liée à l'abstraction. Toujours. Tandis que mon intelligence va plus loin que l'abstraction. Heureusement. Mon intelligence est capable d'atteindre le réel. Elle sait très bien qu'elle l'atteint toujours par l'universel, mais elle est capable d'atteindre le réel. Et la critique. Je devrais peut-être mettre la critique avant la logique, ça n'a pas d'importance. ici, je suis en face de ce qu'on appelle la philosophie réflexive. Et la philosophie réflexive, c'est justement une philosophie qui n'est pas directement en contact avec le réel, mais qui est directement en contact avec ma manière de connaître. C'est ma manière de connaître que je saisis en premier lieu. Alors, la critique va saisir ma manière de connaître. Ma manière de penser. C'est pour ça que la critique regarde l'intentionnalité. C'est le domaine de l'intentionnalité. Et le domaine de l'universel. L'universel n'est pas l'intentionnalité. L'universel, c'est un mode d'intentionnalité. Alors, si l'intentionnalité, c'est ma manière de connaître, vous voyez bien, l'universel, c'est au carré. C'est le mode de ma manière de connaître. Et c'est le fruit. Il faut saisir ce que c'est que l'universel, hein, ça. Il faut arriver à saisir ce que c'est que cet être de raison. L'expression est propre de saint Thomas. C'est saint Thomas qui dit infrationniste, ce n'est pas Albert le Grand. Albert le Grand parle des intentions de raison. Et saint Thomas dit être de raison. Très très joli. Être de raison. Montrer justement que c'est quelque chose qui est purement de raison, la logique. C'est saisi à partir de l'abstraction. Tandis que la critique, c'est la manière de connaître et de penser, c'est l'intentionnalité. Évidemment, vous voyez bien, le langage est très proche de l'intentionnalité. Le langage est très proche de l'universel. Et le langage est proche de la pensée. C'est donc le langage qui joue le rôle d'intermédiaire. C'est la gare de triage. Le langage peut s'incliner vers la logique. La logique est toujours liée au langage. La critique est toujours liée au langage. La métaphysique est le fondement du langage. Mais c'est en ce sens-là que le langage demeure pour moi un signe extrêmement intéressant. Dans le langage, j'exprime ce que je pense. Normalement, j'exprime ce que je pense. Et donc le langage est un signe de ma pensée. Symbolon, hein, dira Aristote, le symbole de ma pensée, le signe de ma pensée. Et le langage est lié à l'universel, il y a un langage universel, bien sûr, il y a des termes universels. Et le langage est lié à la rationalité. Le problème de la signification. L'intentionnalité, la signification qui est dans l'intentionnalité et qui se fonde. La signification, elle s'exprime dans le langage et elle est fondée dans la réalité, dans la pensée et dans la réalité. Le problème de la signification, je le prends dans mon fondement, dans la pensée, dans le langage et dans l'intentionnalité. Dans tous ces domaines-là, il y a quelque chose de commun, le problème de la signification. C'est le gros problème de l'intentionnalité, c'est le problème de la signification. D'où vient la signification? Comment puis-je définir? Comment l'intelligence est capable de définir? Et de définir, donc d'exprimer avec précision ce qui est. Mais alors, elle définit la réalité. Elle définit l'intelligibilité de la réalité. Le toti eneinai. Qui est dans la réalité. Et ce toti eneinai, la quidité qui est dans la réalité, est exprimée et possédée intentionnellement dans le concept. C'est pour ça que la critique va regarder le concept. La critique qui regarde le concept. Ce n'est pas la logique qui regarde le concept. La logique regarde le concept, la forme intentionnelle. Et le point de vue philosophie première regarde la réalité. Alors vous avez les différents aspects, vous voyez, qui nous aident à comprendre comment, quand je parle du langage, je ne suis pas au niveau critique. Il y a dans le langage quelque chose qui est au-delà de la critique. C'est un fruit naturel de ma pensée. Mais le langage est lié à ma manière de connaître. Et c'est pour ça que le langage pourrait être entièrement critiqué. Tandis que ma pensée ne peut pas l'être. Alors si je confonds pensée et langage, j'aurai toujours la tentation de dire tout est critiquable dans ma pensée. Et je ne verrai plus les signes de l'Himalaya. Ça échappera. Il y a des signes qui échappent à la critique. Il y a quelque chose qui émerge, qui est au-delà de la critique. C'est quand mon intelligence est directement en relation avec le réel, qu'elle touche le réel, dans le jugement d'existence, dans la saisie des principes propres, la saisie de l'acte. Bon, ceci c'est pour vous rappeler, hein, comment je prends le langage comme signe. Eh bien, dans le langage, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la place extraordinaire du verbe. Vous voyez, c'est intéressant de voir ça. C'est que dans toute proposition, dans tout le langage, vous avez Pierre est intelligent. Pierre est beau. Pierre est beau. Ainsi de suite, hein, tout le langage. N'importe quel langage, vous avez ça. Toute la philosophie de la substance est ordonnée au sujet. Ou plus exactement, la philosophie de la substance, le signe, c'est l'importance du nom. On l'a vu l'autre jour, l'importance du nom. C'est l'importance de toute la philosophie de la substance. Il y a quelque chose de, j'allais dire, d'encore plus important dans le langage que le nom. C'est le verbe. Pierre marche. Pierre pense. Pierre est. Alors, il y a l'importance du verbe. Que ça correspond. Le verbe ne peut pas être ramené au nom. Impossible. Je peux faire du verbe un nom par le mode, la modalité particulière de l'infinitif. Quand je veux dire marcher, être, intelliger. Alors, j'isole le verbe pour le regarder pour lui-même. Très curieux, ça. Mais en faisant ça, je formalise le verbe et je ne vois plus ce qu'il y a de tout à fait caractéristique dans le verbe. Parce que le verbe actue le nom. Le verbe met le nom dans un état particulier. Pierre marche. Pierre est. Donc, j'exprime quelque chose de tout à fait particulier, quelque chose d'unique, qui est un au-delà du nom. Le verbe exprime autre chose que le nom. Il exprime, alors, c'est justement l'exercice, l'opération, l'action, et au-delà de toutes les actions, il exprime un état actuel, il est. Alors c'est là où les philologues peuvent nous intéresser beaucoup quand ils essaient de découvrir dans les diverses langues la place du verbe être. C'est très intéressant, voir dans les diverses langues, hein, la place du verbe être. Il y a des langues dans lesquelles le verbe être n'a pas encore émergé. il est noyé dans la marche, dans l'action, dans le bien-être. Il est noyé dans l'activité. Il y a des langues dans lesquelles le verbe être n'a pas émergé. Parce que ce qui est premier dans le verbe, c'est l'action. Ça, c'est la première chose. Dans toutes les langues, l'action est donnée. Tandis que le verbe être exprime autre chose que l'action. Alors, c'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Comment se fait-il qu'au point de vue du langage, il y a quelque chose de plus que l'action ?